Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons encore parler d'une fausse mystique condamnée par l'Église, par Pie XI, en 1938, mais qui est promue, remarquez, c'est normal, par la secte moderniste depuis les années 90, à savoir Madame Luisa Picaretta. En plus de professer l'hérésie, Luisa Picaretta était l'auteur de blasphèmes monstrueux. J'ajoute qu'elle a annoncé dans son journal, écrit jusque dans les années 30, elle a annoncé le conciliabule Vatican II. Le fait que la secte moderniste promeuve cette fausse mystique, qui est donc un danger pour les âmes, eh bien, est une preuve supplémentaire du fait qu'elle n'est pas l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, nous faisons quelques petites annonces habituelles avant de commencer. Alors, tout d'abord, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez passer chez nos amis de la librairie française au 202 rue Lecourbe. 202 rue Lecourbe. Alain Pascal m'a invité pour faire une conférence vendredi dernier qui s'appelle « Pourquoi le cévacantisme ?». J'espère qu'elle sera en ligne d'ici quelques temps. La librairie française est un bastion de francité à Paris. Il faut en profiter, chers amis. Voilà, il faut profiter des ouvrages qui y sont et il faut profiter des événements gratuits qui y sont organisés. Voilà, donc je vous invite à vous tenir au courant de tout cela. D'ailleurs, à ce sujet, Alain Pascal fera une séance de dédicace le 17 mai prochain. Le 17 mai prochain. Voilà. Ensuite, si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Et là, chers amis, on ne plaisante plus. On ne plaisante plus. Là, on va parler du lourd, du très lourd de la semaine. Puis entièrement, est-ce que vous pouvez nous mettre la couverture du dernier ouvrage publié par nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin ? Enfin, le livre est actuellement en pré-vente, mais il devrait sortir d'ici quelques jours. Le titre de cet ouvrage est « Catholicisme et dissidence, une alliance impossible ?» pour l'interrogation. Alors il me semble que le plus simple, chers amis, pour vous parler de cet ouvrage qui a été écrit par Pierre Joly, le nouveau tueur à gages, n'est-ce pas ? Le nouveau tueur à gages du milieu. Eh bien, le plus simple, c'est de vous lire tout simplement la quatrième de couve. Voilà. Et je précise que Pierre Joly est à la tête, enfin, est à la base, devrais-je dire plutôt, d'un véritable mouvement de société, puisque la prévente est déjà un carton. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire que cette prévente soit encore plus cartonnante, si j'ose dire. Voilà. Alors, citation de la quatrième de couve. De par son succès médiatique, Alain Soral s'est retrouvé au début des années 2010 à la tête d'un véritable mouvement de société, la dissidence. Ce mouvement peut se définir comme la galaxie de réseaux anti-système gravitant autour du duo Soral-Dieudonné, ayant pour idéologie un conspirationnisme souvent centré sur la question juive, mais aussi le recyclage de courants anticatholiques que l'on croyait disparus. Voyant dans ce logiciel intellectuel un point de jonction, de nombreux traditionnalistes, pas catholiques, chers amis, hein, c'est pas la même chose, rappelez-vous, les tradis ne sont pas catholiques. Hein. Voyant dans ce logiciel intellectuel un point de jonction, de nombreux traditionalistes sont devenus des compagnons de route d'Alain Soral. Bien mal leur en a pris, car ce dernier s'est révélé être au fil des années l'un des plus grands blasphémateurs de son époque. Alors oui, effectivement, quand on parle traditionaliste, on parle à la fois de clercs et de laïcs. Mettons les pieds dans le plat, nous parlons très principalement de prêtres de la Fraternité Saint-Pédis et des galaxies williamsoniennes qui ont fait la promotion d'Alain Soral. Et quant aux laïcs qui ont été les compagnons de route d'Alain Soral et qui se disaient catholiques, eh bien vous connaissez leurs noms, chers amis, certains sont même très populaires parmi vous. Ces noms, vous les retrouvez dans le livre, mais ça serait quand même bien que ces gens-là nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont soutenu Alain Soral, oui, alors que celui-ci se disait catholique. J'ai lu l'ouvrage, je ne vous le cacherai pas, Et l'un des apports de ce livre, c'est que tout le monde savait qu'Alain Soral professait des hérésies, notamment le marcionisme. Mais moi, ce que j'ignorais à son sujet, je dois vous l'avouer, c'est qu'il avait également dit énormément de blasphèmes. Alors, il y en a un qu'il a dit il n'y a pas longtemps sur l'Eucharistie, qui a fait beaucoup parler de lui, mais en réalité, il en avait dit énormément avant. Et ça, je dois vous l'avouer, je ne le mesurais pas. Il faut dire que je n'étais pas un exégète, je dois vous avouer, effectivement, de l'œuvre et des vidéos de l'intéressé. Mais il faudrait donc que tous ces traditionalistes, clercs comme laïcs, nous expliquent comment se fait-il, et la question est posée dans le livre, comment se fait-il qu'ils aient soutenu Alain Soral alors qu'ils se disaient catholiques, bon, ils ne l'étaient pas, mais ils se disaient catholiques, et ils étaient les compagnons de route, pour ne pas dire parfois les quasi-lieutenants officieux, de quelqu'un qui professait l'erreur. Alors là-dessus, il faut être intellectuellement honnête vis-à-vis d'Alain Soral, c'est que c'est loin d'être le seul à professer l'erreur en matière de foi dans notre époque. En revanche, pour ce qui est des blasphèmes, ça c'est une autre paire de manches. Et on peut relever l'idée que c'est bien de relever les blasphèmes du Talmud, qui ont été condamnés d'ailleurs par l'Église, mais si on ne relève pas les blasphèmes d'Alain Soral, là ça devient de l'hypocrisie pure. Pourquoi condamner les blasphèmes dans un cas et pas dans l'autre? C'est pas intellectuellement honnête. Bon. Poursuivons. Outre qu'elle a perdu des âmes et des intelligences, la compromission de trop nombreux traditionnalistes, attention, on ne confond pas avec les catholiques, la compromission de trop nombreux traditionnalistes a donné l'illusion qu'une alliance était possible entre le catholicisme et la dissidence. Ce livre a été écrit pour mettre un terme définitif à ce leurre dangereux. La séparation avec la dissidence est moralement impérative pour tout catholique. Plus personne ne doit perdre son temps et se perdre tout court dans ce piège. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment passionnant, chers amis, très riche en citations, en références. Les problématiques qui sont soulevées sont très actuelles. Le cas Soral est traité, mais en réalité ça dépasse nettement le cas d'Alain Soral. La question, c'est celle de cette dissidence qui s'est développée à partir des années 2010 particulièrement, qui s'est présentée comme étant une alternative au système, mais qui en réalité ne l'était pas, puisque tout simplement elle n'était pas catholique. Et que même, elle a combattu l'Église catholique. Elle la combat aujourd'hui encore. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a fait copain-copain avec la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Donc, ouvrage passionnant de Pierre Joly, chers amis, et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et je crois que Pierre Joly fera une très bonne vidéo, notamment avec Maccabée, à ce sujet qui sera, je pense, passionnante. Voilà. Pierre Joly, par ailleurs, interviendra à l'événement de Catholique de France, qui est dans le week-end du 28-29 juin prochain. Hein. Voilà. Donc ensuite, chers amis, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur le site des vrais, le site où vont les vrais, c'est-à-dire le site des éditions L'Estocade. Nous n'avons pas de nouveautés en ce moment. Le dernier ouvrage que nous avons publié est celui-ci, consacré à Gambetta, qui est la médaille de bronze, je dirais, des baudruches républicaines, hein, médaille d'or de Gaulle, médaille d'argent Clémenceau, médaille de bronze Gambetta. Voilà, donc c'est sur la guerre de 70, et cet ouvrage nous permet de comprendre pourquoi on s'est pris des raclées en 70, et Gambetta et Frayssinet en sont responsables. Voilà, donc mon prochain bouquin qui sera sur la période de l'occupation, je dis pas seulement Pétain de Gaulle, parce que ça parle d'énormément de choses, et je soulève des lièvres dont certains n'ont jamais été soulevés par des historiens, ni pro ni anti d'ailleurs, des lièvres fondamentaux. Dont on parlera longuement. Donc mon bouquin est en cours de finalisation. Voilà, j'espère qu'avec la Providence, nous pourrons lancer la semaine prochaine l'impression. Après, il faudra attendre quelques semaines pour qu'il sorte. Mais c'est un livre, permettez-moi de le dire, dont je suis très heureux et très fier, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et j'y consacrerai plusieurs émissions, parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est un des livres les plus... c'est le livre le plus volumineux que j'ai écrit, alors qu'à la base je voulais le faire pas trop long, mais il y avait tellement de choses à dire que je ne pouvais pas manquer, si vous voulez, à mon devoir. Voilà, si jamais je faisais des étapes, j'aurais manqué à mon devoir. Mais voilà, c'est un livre dont je suis très très heureux, et c'est un livre qui permettra de forger et reforger des âmes françaises. D'ailleurs, tous mes ouvrages, dont le Gambetta, sont faits pour forger des Français. Nous sommes victimes d'un conditionnement anti-français en permanence. Il faut nous reforger par la foi catholique et notamment par l'histoire. Donc voilà, tout ça, ça sert à vous mettre, je dirais, à vous faire des injonctions de France dans les veines. Voilà, donc ensuite, appel aux dons, chers amis. Donc appel aux dons pour les écoles habituelles, école Les Trois-Saint-Jean en Belgique, école Saint-Expédite à Guingamp, et école Notre-Dame Auxiliatrice à Béton. Concernant Notre-Dame Auxiliatrice, il y a un site internet, et je précise que l'école a aussi apparemment, semble-t-il, une section pour l'enseignement secondaire. Et si ça vous intéresse d'enseigner dans cette école, eh bien vous pouvez les contacter via leur site internet. Voilà. Si jamais vous en avez sous le coup, chers amis, vous pouvez aussi aider le monastère de l'Œuvre de l'Étoile, nos amis de l'Œuvre de l'Étoile. Voilà, il y a tous les liens qui sont en description pour cela. Et vous pouvez aussi aider les Sœurs du Christ-Roi, qui d'ailleurs vous remercient d'ores et déjà de votre générosité, puisque vous avez répondu à leur appel. Et voilà, donc bravo à vous tous. Bravo à vous tous qui avez donné un petit coup de pouce, voire un gros, aux Sœurs du Christ-Roi. Voilà, voilà, donc j'espère que j'oublie rien. Donc voilà, 17 mai, séance de dédicace d'Alain Pascal à la Librairie Française, 202 rue Le Courbe. Et le 28 et le 29 juin, c'est l'événement de Catholique de France. Voilà. Où il y aura un certain nombre d'auteurs, dont deux catholiques, moi-même et Pierre Joly. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir attaquer mon cher Pierre Thiermont. Alors, avant d'arriver sur le premier sujet du jour, enfin, le gros sujet du jour, un mot sur l'actualité spirituelle, chers amis. Rappelez-vous, il y a un mois et demi de ça, nous avons fait une vidéo concernant la féminisation du clergé moderniste dit conciliaire, à savoir que de plus en plus de femmes intègrent le clergé de la secte moderniste. Et nous avions relevé à l'époque que pour la première fois officiellement, une femme avait célébré la pseudo-messe Paul VI au Brésil dans la messe d'intronisation d'un pseudo-archevêque moderniste. Et elle avait concélébré l'intéressé avec plusieurs dizaines de clercs. Eh bien, ça c'était la première messe officielle Paul VI, enfin pseudo-messe Paul VI, célébrée par une femme. Eh bien, figurez-vous qu'au Salvador, pour la deuxième fois, une femme, une prêtresse anglicane, comme d'ailleurs c'était le cas au Brésil, a co-célébré la pseudo-messe Paul VI. Voilà, c'était le 24 mars dernier. Donc j'observe, chers amis, que la pseudo-messe Paul VI est de plus en plus célébrée par des femmes. Tout ceci n'empêchera pas nos contradicteurs de nous dire que cette pseudo-messe est une messe valide et non hérétique. Bon, en réalité, nous le savons, c'est un rituel totalement invalide et hérétique. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que, prenez par exemple la messe, la messe avec des guillemets, hein, du mois de février dernier. La bonne femme, pardon pour mon langage, en l'occurrence je crois néanmoins qu'il est approprié, s'avance progressivement vers l'autel. Et ce qui est quand même ahurissant, chers amis, c'est qu'il n'y a aucun clerc conciliaire qui est venu lui tapoter sur l'épaule pour lui dire, au fait, madame, qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et à ma connaissance, aucun fidèle moderniste, dit conciliaire, n'a bougé dans l'assistance. Donc ça veut dire que tout cela est validé, approuvé par le clergé moderniste, tout comme par la foule, je dirais, les fidèles modernistes. Voilà. Donc je répète, la pseudo-messe Paul VI est de plus en plus célébrée par les femmes. Je vous renvoie à l'émission que nous avons faite il y a un mois et demi à ce sujet, sur la féminisation du clergé moderniste. Voilà. Nous arrivons maintenant, chers amis, au principal sujet du jour, à savoir la fausse mystique Luisa Picaretta. Je commencerai mon propos par deux citations de Mgr Gaume tirées de son exceptionnel ouvrage, Le Traité du Saint-Esprit. Citation. Tout ce que Dieu fait pour sauver l'homme, Satan le singe pour le perdre. Tout ce que Dieu fait pour sauver l'homme, Satan le singe pour le perdre. Le Père crée, le Fils rachète, le Saint-Esprit sanctifie. Je répète. Le Père crée, le Fils rachète, le Saint-Esprit sanctifie. La doctrine de Luisa Picaretta est principalement ce qu'on appelle son concept de divine volonté, est une singerie de la sanctification par le Saint-Esprit. Après avoir démystifié les arnaques diaboliques de Marthe Robin, de Maria Valtorta, de la pseudo-sainte Faustine, Faustine Kowalska, et de Medjugorje, nous démontrerons ce soir l'imposture et le danger que constituent Luisa Picaretta et son œuvre, qui ont été condamnées par l'Église en 1938. Luisa Picaretta est italienne. Elle est née le 23 avril 1865 dans la province du Bari, en Italie. À 13 ans, elle aurait eu, soi-disant, une vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à 16 ans, à l'instar de Marthe Robin, elle est tombée malade et elle se retrouvait alitée. Et elle est restée alitée jusqu'à la fin de ses jours, à l'âge de 82 ans. Le 28 février 1899, le directeur spirituel de Luisa Picaretta l'a convaincue de commencer la rédaction d'un journal dans lequel elle raconterait ses expériences mystiques. Et elle l'a fait jusqu'en 1938, année où elle a été condamnée par l'Église. Le tout regroupe 10 000 pages. J'insiste, je répète, je martèle que l'Église, par la voix de Pie XI, a condamné les écrits de Luisa Picaretta par un décret du Saint-Office du 31 août 1938. Décret approuvé par Pie XI. Pierre Thiron, s'il vous plaît, pièce numéro 1. Alors, dans un instant, Pierre Thiron a envie d'envoyer du lourd, il a raison. Parce que là, il faut tirer à balles réelles, hein, si j'ose dire. Hein. C'est une formule, rassurez-vous. Spirituellement parlant, j'entends. Donc, on voit dans ce décret du Saint-Office que les pères ont condamné et ordonné l'inscription à l'index des livres interdits des ouvrages suivants. Donc, les ouvrages de Luisa Picaretta sont interdits à la lecture, chers amis. Je répète, ils sont interdits à la lecture. Bon. Et on nous dit plus loin, donc ce même 14 juillet, Sa Sainteté le Pape Pie XI, lors d'une audience accordée à l'excellentissime et révérend Seigneur, assesseur du Saint-Office, après avoir pris connaissance de la résolution des pères, l'a approuvée, confirmée et ordonné sa publication. Donc Pie XI a approuvé la condamnation des écrits de Luisa Picaretta. Donc l'Église, par sa plus haute autorité, l'autorité pontificale, condamne fermement les ouvrages de Luisa Picaretta et interdit leur lecture. Mais vous le savez, chers amis, ce que l'Église condamne, bien souvent la secte moderniste l'approuve. Et en 1994, le pseudo-archevêque de Trani a ouvert un procès en béatification de Luisa Picaretta, alors que celle-ci était condamnée par l'Église, hein. Et donc ça ne le perturbe pas beaucoup, apparemment, l'intéressé. Et donc, Luisa Picaretta, officiellement, chez les modernistes, a le statut de servante de Dieu. Les écrits de Luisa Picaretta sont extrêmement populaires chez les modernistes dits conciliaires, mais néanmoins, en novembre 2019, le dicaster pour la cause des saints a refusé de donner un nil obstat pour la poursuite de la cause en béatification. Et en avril 2022, ce dicaster pour la cause des saints a carrément interrompu le processus d'entre guillemets béatification de Luisa Picaretta. Je dis entre guillemets parce que la secte moderniste n'a aucune autorité pour faire des béatifications et des canonisations. Cette décision d'interruption a été rendue officielle en janvier 2024 par un courrier adressé à un pseudo-évêque conciliaire français qui s'appelle Benoît Bertrand. Voilà. Et cette même année, ce qui est intéressant, c'est que le clergé conciliaire sud-coréen a également condamné les écrits de Luisa Picaretta. Donc quand même résistance interne au sein de la secte moderniste. Mais en juin 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a adressé, alors non pas un nil obstat, mais ils appellent ça un Nulla Osta pour poursuivre, pour reprendre le procès en béatification. Cela a été notifié au dicaster pour la cause des saints, donc qui a avalé son chapeau, hein, le 8 juillet 2024. Et le 3 décembre 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a fait un document dans lequel il explique sa position. Pierre Thiermont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez adosser la pièce numéro 2 à la pièce numéro 1 afin que nous voyons bien, chers amis, que d'un côté l'Église condamne et de l'autre la secte moderniste approuve. Donc, le dicaster pour la doctrine de la foi, dans ce document du 3 décembre 2024, nous dit quoi ? Il nous dit qu'il a accordé un nulla obsta pour la poursuite de la cause de la béatification et de la canonisation de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, ne constatant aucune erreur doctrinale dans ses écrits. Aucune erreur doctrinale dans ses écrits, de nature à empêcher la divulgation. On va voir dans quelques instants, chers amis, s'il n'y avait pas d'erreur doctrinale dans les écrits. Et plus loin, on nous sort la tarte à la crème habituelle. On nous dit, à la mort de Luisa Picaretta, il y a eu prolifération incontrôlée de ses écrits, souvent traduits et manipulés avec des interprétations hétérodoxes. En somme, ce qu'on a condamné autrefois était condamnable, mais ce n'était pas les véritables écrits et la véritable doctrine de Luisa Picaretta. Ne vous laissez pas manipuler, chers amis, par ce sophisme. Depuis toujours, les hérétiques agissent de la sorte. Les Ariens avaient déjà fait le coup en disant « Oui, ce que vous avez condamné est condamnable, mais ce n'est pas la position d'Arius. » Les jansénistes avaient déjà fait le coup en disant « Oui, c'est vrai, ce que vous avez condamné est condamnable, mais ce ne sont pas les écrits de Janssen. » Les défenseurs d'un prélat proto-moderniste qui s'appelle Rosmini avaient déjà fait la même chose en disant « Oui, c'est vrai, ce que vous avez condamné en 1849 de Rosmini est condamnable, mais ce n'était pas, en réalité, la véritable pensée de Rosmini. » J'ajoute que quand Saint-Pédis, dans Pascendi, condamne Maurice Blondel, l'intéressé a fait le même coup. « Oui, c'est vrai, c'est condamnable, mais c'était pas moi. » Alors que si, c'était lui qui était visé. Et de Lubac a fait la même chose pour Mani Generis. L'Église, pas dans tous ses documents, mais dans un certain nombre, notamment contre les jansénistes et Rosmini, a contré cela. Petite parenthèse, on nous avait fait le coup aussi pour Faustine Kowalska, hein, mais l'Église a contré cela en disant que non seulement ces textes sont condamnés pour eux-mêmes, mais selon le sens visé par l'auteur, en disant « si, si, c'est bien le sens que nous donnons est bel et bien celui qui a été donné par l'auteur. » Il y a un article à ce sujet, chers amis, de l'abbé Ricossa, sur le site Sodalitium, qui est consacré au cas de Rosmini, justement, et je pense qu'un jour, j'évoquerai tout cela en détail. Excusez-moi, parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, mais l'abbé Di Sorco, il y a quelques semaines, avait diffamé l'abbé Ricossa dans une de ses conférences. L'abbé Ricossa a répondu dans un article sur le site Sodalitium, que je vous invite à aller voir. Et j'invite l'abbé Di Sorco à rétracter, bien entendu, sa calomnie. Voilà. Voilà, donc, ce que l'Église, chers amis, condamne, en l'espèce, les écrits de Luisa Picaretta, la secte moderniste l'approuve. Il y a des résistances internes, on le voit. Mais il y a une volonté profonde dans la secte de réhabiliter Luisa Picaretta. On avait vu ce phénomène dans Medjugorje, où le clergé conciliaire local était hostile aux apparitions de Medjugorje, et finalement, c'est Ratzinger qui a sauvé les apparitions de Medjugorje par des artifices, je dirais, juridiques, canoniques. Et aujourd'hui, eh bien, les fausses apparitions, les apparitions diaboliques de Medjugorje, eh bien, bénéficient d'un nihil obstat de la part de la secte moderniste. Donc pourquoi cette insistance à vouloir réhabiliter Picaretta, chers amis ? Parce que Luisa Picaretta, nous allons le voir dans quelques instants, a annoncé Vatican II dès les années 30, et parce qu'elle professe un panthéisme qui prépare, ou si vous voulez, qui est repris, dans l'enseignement de la secte moderniste. Donc nous allons maintenant essayer de comprendre la doctrine de l'intéressé. Dans un premier temps, donc, je vous exposerai un florilège d'hérésies, de blasphèmes et de bizarreries qu'on retrouve dans ses écrits. Dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'elle a annoncé Vatican II, Et dans un troisième temps, nous nous arrêterons sur le cœur de la doctrine de Luisa Picaretta, à savoir ce concept de divine volonté, qui est une singerie de sanctification par le Saint-Esprit. Alors, je précise que je suis allé, dans un premier temps, piocher dans des études critiques qui ont été faites par deux conciliaires. Je n'hésite pas à citer le travail d'un conciliaire, s'il est utile, je l'avais déjà fait, sur Conrad de Mester et Marthe Robin, rappelez-vous. En l'occurrence, ce sont des documents qu'on trouve sur le site SOS Discernement. Ces deux conciliaires sont un homme et une femme, Madame Nathalie Trouillet, de mémoire, et le père Osney. Les liens de ces études critiques sont en description. Donc vous pouvez aller dessus pour consulter les documents et surtout observer que les citations que je cite sont réelles. J'insiste sur ce point. Il ne faut pas nous faire le coup de « ces citations ne sont pas authentiques ». Je suis allé sur plusieurs sites pro-Luisa Picaretta pour vérifier si je retrouvais bien les citations qu'on retrouve dans cette étude critique. Et oui, on les trouve dans les écrits de Picaretta. D'ailleurs, un défenseur de Picaretta, dans une vidéo, n'a pas contesté la matérialité, je dirais, de ces documents. Donc, n'hésitez pas à aller lire ces textes que nous avons mis, je le répète, en description. Dernière précision. Picaretta prétend avoir échangé à plusieurs reprises avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Picaretta, dans ses textes, dit « Notre Seigneur Jésus-Christ », « Jésus-Christ », n'entendez pas notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un faux Dieu, c'est un démon qui s'adresse à elle. Sous réserve qu'elle ne soit pas totalement mythomane, d'ailleurs. Mais je crois pas, je pense qu'elle a eu des apparitions démoniaques. Je plaide plutôt pour ça. Alors maintenant, commençons. Je relève d'abord qu'il y a des blasphèmes absolument innommable dans l'œuvre de Luisa Picaretta, puisque l'intéressé raconte une relation amoureuse et pire, chers amis, des actes d'impureté qu'elle a avec, je vous laisse deviner qui. Mais je ne vous le dis pas tout de suite parce que j'aurais peur d'être foudroyé sur place, très franchement. Donc si vous voulez en avoir le cœur net, je vous renvoie justement au lien de SOS Discernement. Voilà. Moi, je ne veux pas attirer la malédiction sur moi, donc je n'ose pas le dire moi-même. Voilà. Mais rien que ces blasphèmes monstrueux suffisent à justifier la mise à l'index. Et on est effrayé à la lecture de ces blasphèmes de voir que le dicaster pour la doctrine de la foi, donc ce qui fait, pardon pour la répétition, office de saint office dans la secte moderniste, on est effrayé de voir que ce pseudo-saint-office nous dit qu'il n'y a pas d'erreur doctrinale, alors que ces blasphèmes sont une atrocité, chers amis. Une atrocité. Bon. Bref, poursuivons. Donc, il y a aussi toute une série d'hérésies et de bizarreries dans les écrits de Picaretta. Alors, commençons par quelques hérésies. Par exemple, elle nous dit que l'Église a été fondée sur Saint Jean, c'est totalement faux. L'Église a été fondée sur Saint Pierre. Hein? Donc j'ai voulu prêter pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon Église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, etc. Nous avons confié ma mère à Jean, afin qu'elle déverse en lui et à travers lui en l'Église tous mes enseignements. Donc on voit bien que Saint Jean prend la place de Saint Pierre dans les écrits de Picaretta. C'est une hérésie. Alors, il y a des phrases qui ne veulent rien dire. La foi est Dieu, Dieu est la foi. Non, la foi, ce sont les vérités révélées de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas Dieu. Bon. Alors aussi, le faux Jésus dicte un nouvel évangile à Luisa Picaretta. Qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier? Voilà. Et le faux Jésus répond, si tu ne les écris pas, tu empêcheras ces soleils de se lever et tu feras beaucoup de mal. Voilà, donc aussi on nous dit qu'il n'y a pas de péché mortel. Hein, voilà, il n'y a pas de péché mortel, il y a une citation, il n'y a pas de péché grave. Et il y a des choses extrêmement bizarres. Par exemple, Picaretta raconte qu'elle communie, et que le prêtre lui dit que grâce à la communion, Jésus va arriver. Picaretta répond, mais je ne le vois pas. Le clerc lui répond, regarde bien, car il est en toi. Citation. Je me suis mise à chercher Jésus en moi, et j'ai aperçu ses pieds qui dépassaient à l'extérieur de moi. Je les ai aussitôt saisis et j'ai tiré Jésus vers moi. C'est du grand n'importe quoi, chers amis. Par ailleurs, en toute humilité, à la sœur d'ailleurs de Kowalska, hein, elle nous dit, alors, on nous dit ceci, « Il n'y a pas eu d'autre créature avant toi, il n'y en aura pas après toi, qui par nécessité ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Je t'ai choisi afin de déposer en toi les actes de ma suprême volonté. » Mais donc, je dirais en toute simplicité, Picaretta nous dit qu'elle est une nouvelle très sainte Vierge Marie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'elle nous dit ceci, enfin, le faux Jésus lui dit ceci, « As-tu oublié ta mission ? La mission d'être ma mère sur la terre. En ce qui te concerne, comme une autre mère pour moi. » Et à un moment donné, Picaretta raconte qu'elle a l'enfant Jésus dans ses bras, et celui-ci lui répond « Maman, laisse-moi dormir. » Tout ça est quand même très inquiétant. Par ailleurs, la divine volonté de Picaretta, promue par Picaretta, conduit à l'extinction de la sainteté. Citation, c'est le faux Jésus qui parle. « Je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine. » Donc, la divine volonté de Picaretta vise à effacer les saintetés telles que l'Église les a toujours connues et reconnues. Voilà. Donc tout cela, hein, toutes ces hérésies, ces bizarreries et ces blasphèmes suffisent à justifier la condamnation de Luisa Picaretta. Mais, chers amis, il y a pire encore. Nous allons maintenant nous arrêter sur le concept central de l'œuvre de Luisa Picaretta, à savoir la divine volonté, qui, comme je vous l'ai dit, est une singerie de la sanctification par le Saint-Esprit. Luisa Picaretta annonce, alors dans SOS Discernement, ils nous disent qu'elle reprend une hérésie de Joachim de Flore, je vous avoue que je ne connais pas très bien le sujet, mais en tout état de cause, Picaretta nous dit que l'histoire de l'humanité est divisée en trois âges. L'âge de la création, afférente au Père, l'âge de la rédemption, afférent à notre Seigneur Jésus-Christ, et l'âge de la divine volonté, afférent à qui ? Bien entendu, Luisa Picaretta. Alors parfois, elle nous dit que c'est l'âge du Saint-Esprit et de la sanctification, mais ce n'est pas très clair. Et en fait, d'un saut de puce, vous voyez, on passe Saint-Esprit, divine volonté, Picaretta, enfin, vous voyez, c'est, on passe d'un saut de puce de l'un à l'autre, quoi. Donc Luisa Picaretta annonce, je vous disais, que l'histoire du monde est divisée en trois âges. Et chaque âge du monde correspond à une nouvelle forme de renouvellement. Le mot de renouvellement est très important. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, pièce numéro 3. Sur les trois âges de Picaretta. Et on va voir qu'elle va annoncer Vatican II. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Donc, âge du Père et de la création. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. L'âge de la rédemption, de l'incarnation par notre Seigneur Jésus-Christ. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Elle écrit ça dans les années 20-30. On se rapproche des années 60 où il y a Vatican II. Nous sommes près de la fin de la période de 2000 ans. Il y aura un troisième renouveau, théoriquement par le Saint-Esprit. Mais on va voir, c'est pas tout à fait ça. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert. Mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée, et après une grande partie de la génération présente détruite, bon, on le sait pas très François, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Retenez ça, c'est fondamental. Je serai encore plus magnanime pour les créatures. Donc plus bienveillant pour les faibles, vous voyez. Plus gentil, plus doux. Donc, question, chers amis. Ce troisième renouvellement, qui est censé se faire par une nouvelle infusion du Saint-Esprit, par une nouvelle descente du Saint-Esprit. Ce troisième renouvellement qui devait ne pas tarder à se faire, nous dit-on. Et ce troisième renouvellement qui aboutit à plus de magnanimité de la part du Christ et donc de son corps mystique. Ce troisième renouvellement n'est-il pas le conciliabule Vatican II ? En effet, le conciliabule Vatican II a été qualifié implicitement par le félon Roncalli Jean XXIII et explicitement par Ratzinger Benoît XVI de nouvelle Pentecôte. Donc de nouvelles descentes du Saint-Esprit différentes de la première descente du Saint-Esprit qui avait eu lieu à la Pentecôte. Et de cette nouvelle Pentecôte, disent les intéressés, eh bien, un renouvellement est attendu. Alors, Pierre Tirmont, avant que vous partiez, soyez sympa, mettez les pièces 4 et 4 bis, s'il vous plaît. Vous seriez un vrai. Donc, tout d'abord, cette pièce 4 et 4 bis sont des extraits d'un discours de Benoît XVI Ratzinger, donc, dit le 14 février 2013. C'est extrêmement intéressant comme date, puisque c'est très peu de temps avant qu'il quitte son faux pontificat, qu'il abandonne, qu'il abdique son faux pontificat. Donc c'est en quelque sorte une forme, je dirais, de testament spirituel. Bon. Que nous dit Ratzinger ? Alors je précise que l'un des extraits que vous voyez, qui est souligné à divers endroits en vert, a été pris sur le site du Vatican, Vatican News, je précise. Donc Ratzinger nous dit, peu avant qu'il quitte son faux pontificat, nous espérions, à Vatican II, que tout se renouvelle, que vienne vraiment quoi ? Une nouvelle Pentecôte. Il nous dit que Vatican II est une nouvelle Pentecôte, une nouvelle ère de l'Église. À ce moment-là, nous espérions que cette relation se renouvelle, le fameux renouvellement change, que l'Église soit de nouveau une force pour demain et une force pour aujourd'hui. On pensait de nouveau donc à l'union entre l'Église et les meilleures forces du monde pour ouvrir l'avenir de l'humanité, pour ouvrir le vrai progrès, donc pour fonder un monde meilleur, non pas pour sauver les âmes. Voilà, donc on nous dit clairement que Vatican II est une nouvelle Pentecôte. Et il nous le dit que cette nouvelle Pentecôte devait aboutir à un renouvellement de l'Église. Hein, il nous le dit que donc la force réelle du Concile était présente. Voilà, le vrai Concile donc se réalise toujours plus et devient la véritable force qui ensuite est aussi une vraie forme, un vrai renouvellement de l'Église. Donc Vatican II, cette nouvelle Pentecôte, nous dit Benoît XVI Ratzinger, est un renouvellement de l'Église. Pour une nouvelle ère. C'est exactement ce qu'annonce Picaretta. C'est-à-dire un renouvellement de l'Église, plutôt une singerie de renouvellement de l'Église, par une singerie de sanctification par le Saint-Esprit, par une singerie de Pentecôte. Voilà pour Ratzinger. Jean XXIII ne disait pas autre chose, puisque lors de son discours d'ouverture le 11 octobre 62, il a qualifié l'assemblée qui était devant lui de cénacle. Or, le cénacle, c'est l'assemblée qui a reçu notamment le Saint-Esprit. Donc, Jean XXIII, implicitement, nous disait que le conciliabule Vatican II était une nouvelle Pentecôte. Mais Jean XXIII n'a pas dit que cela d'important, chers amis, dans son discours. Pardon. Il nous a dit aussi ceci, puisque, rappelez-vous, à quoi aboutit le renouvellement auquel appelle Picaretta, ou plutôt annoncé par Picaretta ? Il aboutit au fait que, soi-disant donc, Jésus, et donc son corps mystique, deviennent plus magnanimes, plus bienveillants envers les faibles, plus miséricordieux. Ça ne vous rappelle pas un extrait du discours de Jean XXIII, citation, où il nous disait ceci, « L'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. » Donc, plus de sévérité, plus de condamnation, que de la miséricorde. Ça coche toutes les cases de ce qu'annonçait Picaretta. Un renouvellement, en l'espèce de l'Église, par une nouvelle descente du Saint-Esprit, une pseudo-Pentecôte, qui aboutit à une pseudo-nouvelle miséricorde. Picaretta a annoncé Vatican II, chers amis. Voilà pourquoi la secte moderniste se sent obligée de la réhabiliter. Elle annonce Vatican II en ceci qu'elle annonce la venue d'une singerie du Saint-Esprit sur laquelle nous allons maintenant nous arrêter. Alors avant cela, rappelons l'hérésie matricielle de Vatican II. Cette hérésie matricielle a été inventée par un philosophe français qui s'appelle Maurice Blondel, qui a été condamné dans Pascendi de Saint-Pédis, hein, je précise. Hein, c'est lui qui est visé principalement. Hein. Bon. Pascendi fait le portrait robot de Blondel. Cette hérésie va être peaufinée par Henri de Lubac, qui est l'une des grandes têtes pensantes du conciliabule Vatican II. Et comme par hasard, cette hérésie, on va la retrouver dans la constitution pastorale de Vatican II, Gaudium et Spes. Et par la suite, cette hérésie va être développée davantage dans le pseudo-magistère ordinaire des faux papes modernistes. Quelle est cette hérésie ? Cette hérésie, c'est celle de la fusion entre la nature et la grâce. C'est la fusion entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Dans Gaudium et Spes de Vatican II, on nous dit que le Christ est uni à tout homme, alors que la doctrine catholique nous enseigne que le Christ n'est uni que aux personnes qui sont en état de grâce, qui participent à la vie divine. C'est par l'état de grâce que nous avons en nous la très sainte Trinité, chers amis. Mais non, Vatican II nous dit, le Christ s'est uni à tout homme. Les modernistes tartuffes nous opposent, mais attention, dans Gaudium et Spes, on nous dit que le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. Donc c'était juste une allégorie, une formule. Totalement faux. Oui, il y a le « en quelque sorte ». Mais ce « en quelque sorte » servait juste, je dirais, de maquillage cosmétique. Puisque par la suite, Wojtyla, dans son pseudo-magistère ordinaire, à plusieurs reprises et dans plusieurs textes différents, a dit mot pour mot, en faisant sauter le « en quelque sorte », que le Christ était uni à tout homme, donc même aux non-catholiques et même aux catholiques en état de péché mortel. Il l'a dit dans Redemptor Hominis, je l'avais opposé à Mathieu Avagna à l'époque, dans mon débat face à lui, il m'avait dit que je mentais, alors que c'était la pure vérité. Et Wojtyla l'a également dit dans une autre de ses encycliques, entre guillemets encycliques, hein, qui s'appelle Redemptoris Missio. Voilà. Donc, ne soyons pas dupes de tout cela, et tout ceci est la source du salut universel. Pourquoi ? Si le Christ est uni à tout homme, si la grâce sanctifiante, chers amis, est naturelle et non plus surnaturelle, si cette grâce sanctifiante appartient à la nature humaine, l'homme ne peut pas la perdre. Donc tout le monde, même les non-catholiques, même les catholiques qui commettent des péchés mortels, conservent la grâce sanctifiante. Et donc tout le monde est sauvé. Wojtyla nous le dit mot pour mot, chers amis. Il nous le dit déjà dans sa pseudo-encyclique Redemptoris Missio. Écoutez bien, l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, donc du salut universel. Et quel est, il poursuit, comment le justifie-t-il ? Eh bien justement, en nous citant ce passage dans lequel il nous dit que le Christ est uni à tout homme. Donc je répète, l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Le Christ est uni à chacun et pour toujours. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre la grâce sanctifiante. Et Wojtyla l'a vu dans un texte que j'ai souvent cité à ce micro et que je reciterai souvent parce que c'est vraiment un aveu exceptionnel. Message à l'Asie du 21 février 1941. Wojtyla nous dit ceci. Dans l'Esprit Saint, chaque individu et tous les peuples sont devenus par la croix et la résurrection du Christ, enfants de Dieu, participants de la nature divine, c'est-à-dire enfants de Dieu. Donc normalement, l'Église enseigne que les enfants de Dieu sont seulement les catholiques, mais Wojtyla dit non, tout le monde est enfant de Dieu, participant de la nature divine. Participe à la nature divine celui qui est en état de grâce. Donc Wojtyla nous dit que tous les êtres humains sont en état de grâce. Et héritier de la vie éternelle, donc ça veut dire héritier au paradis, Wojtyla nous dit que nous sommes tous héritiers au paradis, nous irons tous au paradis. Voilà ce qu'enseigne la secte moderniste. Donc je répète, un discours à l'Asie, 21 février 1981, ce discours est sur le site du Vatican. Donc, tout ceci, cette fusion entre le naturel et le surnaturel, entre la nature et la grâce, dont je répète, le père et le philosophe français Maurice Blondel, eh bien, on voit bien que c'est le germe du panthéisme. Bon. Ce panthéisme, justement, va se développer bien davantage encore dans le pseudo-magistère ordinaire de la secte moderniste. Et, comme par hasard, Luisa Pigaretta professe un panthéisme qui prépare, ou si vous préférez même qu'on retrouve, dans le magistère ordinaire de la secte moderniste. Luisa Picaretta a des écrits qui sont très clairement panthéistes, en ceci que la créature et le créateur fusionnent. La créature est décrite comme une émanation du créateur. Donc retenez bien ça, chers amis, la divine volonté de Luisa Picaretta, c'est la fusion de la créature et du créateur. Je répète, la divine volonté de Picaretta, c'est la fusion de la créature et du créateur. Pierre Tiremont, soyez un vrai, pièce numéro 5, je vous prie. Alors, citation. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, donc ça c'est des extraits de Picaretta, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer dans cette âme. Donc la divinité vient se déposer dans l'âme de l'individu qui fusionne avec la suprême volonté. Donc fusion, créature, créateur. Ma fille, la lumière de ma volonté nous fusionne. Donc là, c'est le pseudo-Christ, le faux-Christ, qui dit à Picaretta que la divine volonté les fusionne et forme de nos deux vies une seule vie. Cette lumière accomplit son travail en toi. Ensuite, le faux-Christ dit très clairement à Picaretta que la créature est une émanation du Créateur. Citation, en la créant, donc là c'est le faux-Christ qui parle, en créant quoi ? La créature, je ne l'ai faite autre qu'un petit récipient rempli de parcelles divines. Un petit récipient rempli de parcelles divines. Donc l'individu est constitué de divinité. Elle possède des parcelles de tout mon être. L'individu, la créature, possède des parcelles de l'être de Dieu, nous dit le faux Christ. Plus loin, la créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Donc on voit bien que là, on nous dit que la créature est une émanation du Créateur. Il y a encore beaucoup d'autres citations dans ce sens, je précise. Ensuite, on nous précise encore que cette fusion se fait non seulement entre l'individu qui adhère à cette divine volonté et Dieu, mais il y a plus fort. C'est que la fusion est entre cet individu, Dieu et toutes les choses créées. Citation. Lorsque je me fusionne dans la divine volonté, et que l'immense vide se présente à mon esprit, je circule à travers toutes les choses créées. Je circule à travers toutes les choses créées. Et on nous dit encore, tout se trouve dans ma volonté, donc c'est toujours le faux Christ qui parle, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes. Donc qui fusionne dans cette divine volonté englobe toutes les créatures sur terre et tous les actes de Dieu. C'est de la folie pure, c'est du panthéisme à l'état pur, chers amis. Eh bien, ce panthéisme, je dirais, picarétien, cette fusion entre Dieu et la création, c'est une doctrine constante de la secte moderniste, exprimée dans leur pseudo-magistère, comme vous le savez, faussement infaillible, puisque nous avons affaire à deux faux papes. D'abord, nous pouvons citer le faux pape Wojtyla Jean-Paul II, qui écrivait ceci. Alors, Pierre Tiremont, s'il vous plaît, pièce numéro 6, si vous pouvez l'adosser. Donc, pièce numéro 6, qui est un extrait de la pseudo-encyclique de Jean-Paul II, Dominum Vivificantem, où il nous dit ceci. L'incarnation a donc aussi un sens cosmique, une dimension cosmique. Le premier-né de toute créature, en s'incarnant dans l'humanité individuelle du Christ, s'est uni en quelque sorte avec toute la réalité de l'homme, qui est aussi chère, et en elle, avec toute chair, avec toute la création. Donc l'Église nous enseigne que le Christ s'est uni avec la nature humaine, mais là, dans ce que nous disons ici, là, on va au-delà de ça, et on nous dit que le Christ se serait soi-disant uni avec toute la création. Bergoglio reprend cette idée et l'exprime encore plus clairement, parce que là c'est un petit peu en mode alambiqué. Il nous le dit encore plus clairement dans sa pseudo-encyclique, donc officiellement infaillible en matière de foi et de mœurs, Laudato si'. Citation. Le Fils s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. Le Fils s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. Donc il nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas uni seulement à la nature humaine, mais s'est uni à l'ensemble de la planète Terre. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est du panthéisme à l'état pur, puisqu'il y a une fusion entre le Christ et la Terre, la création. On retrouve cette idée de fusion, vous voyez ? Et Ratzinger, lui, alors dans un contexte qui n'était pas officiellement infaillible, mais néanmoins solennel, a repris cette idée dans une homélie du 24 juillet 2009 qu'il a faite pour rendre hommage au gnostique Teilhard de Chardin. Il disait ceci. La fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu'il devienne hostie vivante. Attendez, consacrer le monde pour qu'il devienne hostie vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'hostie vivante, il y a une présence réelle dedans, c'est Dieu. Donc on lui dit consacrer le monde pour qu'il devienne Dieu. Je ne vois pas ce qu'on doit comprendre d'autre. Hein. Voilà, donc il nous dit que le monde lui-même devienne hostie vivante, devienne liturgie. C'est la grande vision qu'a ensuite eu Teilhard de Chardin lui aussi. À la fin, nous aurons une vraie liturgie universelle où l'univers deviendra hostie vivante. Hostie vivante. Donc Dieu. Donc, chers amis, en résumé, donc, Luisa Picarita professe le panthéisme, la secte moderniste professe également le panthéisme. Luisa Picarita est donc promue parce qu'elle a annoncé la pseudo-nouvelle Pentecôte qu'est le conciliabule Vatican II, censé nous apporter ce monde plus magnanime. Picarita est promue également parce qu'elle professe un panthéisme qui prépare, voire que l'on retrouve dans la religion, née du conciliabule Vatican II. Donc Luisa Picarita prépare les esprits à l'hérésie moderniste. Puisque le modernisme a déjà été condamné par l'Église, chers amis, et puisque Luisa Picarita et ses écrits ont déjà été condamnés par l'Église, je m'autorise cette conclusion. Luisa Picarita, poubelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre-Tirmont ? Questions intelligentes, hein, bien entendu. Hein.
Je vais regarder cela. Est-ce que mon micro marche bien ?
S'il n'y a pas de questions intelligentes, vous connaissez la formule, pas de zèle.
Je regarde s'il y a eu des dons. Non. C'est plutôt rare. Oui, Marie C parle de SOS discernement. Il y a les liens dans la description.
Voilà.
Alors, une question de Stéphane Michel. Avez-vous eu vent du refus de Réginald Garrigou-Lagrange de valider la thèse de Wojtyla sur la mystique de Saint-Jean de la Croix ?
Je ne crois pas que le père Garrigou-Lagrange était un contemporain de Wojtyla. Alors, c'était peut-être des choses qu'il avait écrites avant qu'il devienne faux pape, je ne sais pas. Mais non, je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus.
Et il te demande qui sont les plus grands thomistes du XXe siècle, selon toi ?
Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Le père Garrigou-Lagrange était un très grand thomiste du XXe siècle. Mais après, moi, je ne les connais pas tous. Hein. L'abbé d'Issorco de la Fraternité Saint-Pilis nous avait dit dans sa conférence qu'il avait lu tous les théologiens du... tous les théologiens entre Vatican et Vatican II qui avaient parlé de l'infaillibilité. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir lu tous les théologiens thomistes du XXe siècle et je ne sais pas qui est le plus grand. Voilà, je vous trie très, très franchement. Mais il y a un très grand thomiste qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin, par ailleurs, hein, que vous pouvez aller lire. Voilà.
Marie C. dit...
C'est, ouais, petite parenthèse, c'est certainement pas Jacques Maritain, hein, qui est autant thomiste, à mon avis, que Pierre Tirmont est japonais. Hein.
Marie C. dit, derrière la divine volonté, une secte venue du Québec, avec son école, Hildegarde de Bingen.
Ouais, bah poubelle, poubelle, tout ça.
Qui la divine volonté. Qui reçoit en direct, c'est une des sacs de la Vierge.
Poubelle, poubelle. Picarita, poubelle. C'est très simple, chers amis. La conclusion, elle est très simple. Marthe Robin, poubelle. Valtorta, poubelle. Pseudo-Sainte-Faustine, poubelle. Medjugorje, poubelle. Picarita, poubelle. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. On a le magistère de l'Église, qui est l'explicitation de la révélation, qui est un instrument formidable, un cadeau du bon Dieu. Allons, si on veut être catholique, il faut puiser là-dedans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs tordus, vous voyez ? Surtout qu'il y a de nombreux blasphèmes en plus hein, chez Picarita, hein, comme je vous l'ai dit.
C'est tout pour les questions.
Bah écoutez, on va pas faire de zèle. Alors, Pierre Timon, est-ce que vous pouvez nous remettre la couverture du dernier livre de Pierre Joly? Je devrais même dire de la bombe lâchée par Pierre Joly. Hein. Oui. Voilà, donc c'est un ouvrage que je vous invite à découvrir, qui en plus a un prix très raisonnable de 17 euros. C'est très rare aujourd'hui qu'un ouvrage fasse moins de 20 euros, je précise. Petit ouvrage, non, c'est pas un petit ouvrage d'ailleurs, il est quand même conséquent, passionnant, sur l'impossibilité d'alliance entre le catholicisme et la dissidence. Et en reflet, cet ouvrage exprime la compromission des traditionnalistes, des tradis, avec la dissidence. Ce qui prouve bien que les traditionnalistes ne professent pas la foi catholique, parce que s'ils l'avaient professé, jamais ils n'auraient pu faire cause commune avec la mouvance dissidente. Donc il y a une problématique directe qui est traitée, à savoir l'incompatibilité entre le catholicisme et la dissidence, et la nécessité donc de se séparer de cette sphère. Et il y a la compromission des tradis qui ont démontré qu'ils n'avaient pas la foi en étant des compagnons de route de ce mouvement. On peut avoir été trompé un temps, j'entends bien, hein, mais quand pendant 10 ans, 15 ans, on valide, même si derrière, après, on s'embrouille avec le principal intéressé, c'est un peu facile. Et un mea culpa s'impose. Mais l'une des personnes, l'un des compagnons de route tradis d'Alain Soral, a, de façon très fair-play, fait la promotion de l'ouvrage de Pierre Joly. Je le remercie, il ne savait sans doute pas qu'il était visé par cet ouvrage. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour faire un mea culpa, donc j'invite les intéressés à le faire. Bon, bah, on va s'arrêter là, Pierre Timon. Et chers amis, je vous dis à dans 2 semaines.